France Culture.
Bonjour Guy Savoie.
Bonjour.
Avoigny épisode 4, faire rayonner la gastronomie française. Après avoir parlé de votre enfance, de vos apprentissages, de votre cuisine et de la façon dont votre restaurant a évolué, j'aimerais vous proposer qu'on parle toc, étoile, liste et autres façons de faire rayonner la gastronomie française. On vous a laissé en 1985 avec 2 étoiles acquises en 5 ans. Vous avez attendu 2002, enfin je ne sais pas si c'est vous qui avez attendu ou si c'est le guide Michelin qui a attendu 2002 pour que vous ayez la 3e étoile. Est-ce que ça vous a semblé long? Est-ce que pour vous la course aux étoiles faisait partie de la façon dont vous viviez votre métier?
Être célébré, reconnu, ben bon, bien sûr que c'est important. Mais je crois que je vous ai dit que nous, nos échéances de vie quotidiennement, c'est le déjeuner et le dîner. Ça ne m'a pas paru long, je veux dire pourquoi, parce que grâce à ces déjeuners et ces dîners, l'objectif, c'était de, le matin, de penser au déjeuner et de rendre heureux les convives qui allaient être là au déjeuner, et puis l'après-midi, penser à rendre heureux les convives du dîner. Alors, il y a peut-être aujourd'hui, c'est peut-être aussi un problème de génération, j'en sais rien, ou je ne sais pas si c'est de tempérament ou de caractère, on a l'impression que les gens veulent tout tout de suite. Donc, le fait d'attendre, quel est le problème d'attendre? À partir du moment où vous avez une maison qui marche bien, enfin qui marche en tout cas selon vos souhaits, qui a un très bon fonctionnement, qui a une rentabilité normale pour pouvoir continuer, c'est quand même ça l'objet principal.
C'est ça votre préoccupation quotidienne?
Mais bien sûr! Mais moi, j'ai toujours privilégié tout ça au quotidien. Et puis, alors, est-ce la conséquence de ce qu'on m'avait dit le premier jour à l'école de rugby? Notre entraîneur, nous avions 11 ans, il nous avait dit la chose suivante. Dites-vous bien que la météo et l'arbitrage font partie du jeu. À partir du moment où vous avez installé cet état d'esprit dans votre tête, et on a la chance aujourd'hui d'avoir une multitude d'arbitres. Ben oui, enfin,
on a. Il n'y a plus seulement le guide Michelin.
Non, il n'y a plus seulement le guide Michelin qui a été pendant 100 ans, et heureusement qu'il a existé. Au début, il ne faut pas oublier que c'était pour donner des adresses de garagistes, parce qu'il paraît-il que les voitures tombaient beaucoup en panne et qu'il y a des distinctions depuis, je crois, 1930 et quelques. Donc, voilà. Mais maintenant, grâce à l'intérêt grandissant pour les choses de cuisine, donc pour la restauration, aujourd'hui, il y a une multitude.
Mais c'est important.
Dans les années 60.
C'est important. Vous disiez, c'est important cette reconnaissance malgré tout.
Mais bien sûr
que
c'est important. En fait,
certains ont laissé leur santé. On évoquait Bernard Loiseau dans les émissions précédentes.
Oui, mais lui, alors Bernard, on a dit plein de choses totalement fausses. Bernard, on le sait aujourd'hui, c'est une dépression nerveuse non diagnostiqué. Il y avait cette bipolarité. On ne connaissait pas le mot bipolarité il y a 20 ans. Donc, voilà. Bon, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui... Alors, on a tout dit que c'était la perte de son étoile. Il ne l'a pas perdue. Enfin, bon, il s'est dit beaucoup de choses. La base, mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est malheureusement la maladie. Et on n'est pas à l'abri des maladies, quelles qu'elles soient. Donc c'est pour ça que je le répète, il faut être à 120% en pleine possession de tous ses moyens. Autrement, c'est impossible. Est-ce que vous avez envie de travailler le jour où vous avez une angine? Non. Alors imaginez que lorsque vous avez une pathologie très grave, c'est impossible. Vous pouvez pas avoir la tête au travail si vous êtes en chimio ou si voilà. En tout cas, dans nos métiers, il y a des métiers qui peuvent peut-être, mais nous, s'il y a trop, il y a un engagement physique trop important. Avoir tout simplement cette bonne santé. Non, alors si on revient, c'est vrai qu'aujourd'hui, des guides, il y en a partout. Il y en a dans tous les pays, maintenant, il y a des guides. D'ailleurs, nos guides nationaux, tels que le Michelin ou même le Goemio, je crois que le Goemio, maintenant, ils sont dans une vingtaine de pays. Ça, c'est nouveau. Puis après, il y a les guides régionaux. Là, il y a le guide Lebet qui sort, qui, je crois, va sortir bientôt. Là. Enfin, et puis, il y a la presse, et il y a les réseaux sociaux. Et il y a le bouche à oreille, donc ça en fait des moyens de communication autour d'un restaurant.
Est-ce que ça veut dire, Guy Savoie, que quand vous perdez votre troisième étoile en 2023, vous ça. Dites, je perds cette étoile, mais j'ai d'autres distinctions. C'est une péripétie. Alors, ou est-ce que quand même, ça touche?
Alors, bien sûr, vous savez, dans le rugby, quand vous avez un choc assez fort et que vous avez des signes un peu, quand vous avez pris un choc, on appelle ça le protocole commotion. Vous avez des tests et on voit si vous êtes capable de continuer ou pas. C'est vrai, alors j'ai été un peu,
commotionné.
Voilà, j'aurais pu être sous protocole commotion. Au rugby, vous pouvez prendre un monstrueux plaquage et marquer un essai 3 minutes après. Voilà. Donc, la vie et ses événements. Après, c'est...
Vous avancez.
Moi j'avance, oui. Mais j'avance parce que c'est quoi mes préoccupations? Que les gens du déjeuner et du dîner soient bien chez nous.
Mais malgré tout, il y a une différence entre 2 et 3 étoiles.
En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti, ni dans la fréquentation. Au contraire, je crois que j'étais convaincu d'avoir un capital sympathie. Je me suis aperçu avec toutes les réactions que j'avais un capital amour. Donc, si je n'avais pas vécu cet événement, je ne me serais jamais aperçu de ça. Donc, parce que les messages sont arrivés et la fréquentation n'a pas faibli, bien au contraire. Bien au contraire. Et moi, j'ai continué à vivre ma vie, à augmenter mes prix normalement. Ça fait 3 ans je sais pas, faudrait que je vérifie ce fameux menu, de quel prix il était il y a 3 ans. Et maintenant, je lui ai dit qu'il était à
740.
740, voilà. Donc, je pense qu'il a pris parce que l'électricité a augmenté, parce que les salaires ont augmenté, parce que les produits ont augmenté, parce que le lavage de cette nappe a augmenté. Enfin, c'est tout ça, quoi. Je veux dire, c'est pas, moi, je suis un indépendant, autonome. Donc, personne va venir me dicter les ingrédients de la recette. Moi, c'est une des premières choses que j'ai dit. Je ne changerai pas les ingrédients de la recette du succès de cette maison.
Et je malgré tout, vous disiez, Guy Savoie, que d'autres distinctions existaient aujourd'hui.
Bien sûr.
Vous faites désormais partie de l'académie qui regroupe, pas encore l'Académie des Beaux-Arts, on verra ça dans l'épisode 5, mais l'académie qui regroupe 10 grands chefs historiques considérés comme étant arrivés au sommet de leur art, 5 toques d'or, ouais, au Guy de Goemio, ça a une sorte de label à vie.
Absolument.
Pour ce guide.
Là, je crois qu'il faut avoir été 25 ans au plus haut sommet dans le guide, c'est ça, voilà.
Et dans le même temps, en 2025, pour la 9e année consécutive, votre restaurant a été classé meilleur restaurant du monde par le classement Lalice, qui, je le rappelle, est un algorithme qui compile des milliers de sources et attribue un score sur 100. Mmh. Ben voilà. Est-ce que ça participe, pour vous, au-delà de vous, de votre restaurant, de votre équipe, d'un mouvement de reconnaissance de la cuisine sur la scène internationale?
Mais moi, c'est tout ça. C'est l'intérêt pour la cuisine tout autour de la planète est grandissant. Mais c'est évident. Je mets la France un peu à part, hein, mais dans les autres pays de la planète, il s'est passé plus de choses ces 30 dernières années que les 2000 ans qui ont précédé. Donc, qu'est-ce qui est grand vainqueur? C'est la cuisine, quoi. C'est la cuisine sort grande vainqueur de cette évolution planétaire. Vous vous rendez compte que qui pouvait imaginer, il y a 30 ans, que la Chine aurait des restaurants qui seraient classés dans des classements mondiaux? Non. Qui aurait pu imaginer que la Norvège, le Danemark, la Suède, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, l'Amérique du Sud... Et regardez aujourd'hui cette profusion de restaurants dans tous ces pays. Non, mais est-ce qu'on assiste à quelque chose de magique?
Il y a une différence entre vous et d'autres grands chefs, beaucoup de différences bien sûr, mais une que je peux pointer, Guy Savoie, c'est que à la différence de beaucoup de vos camarades ou de vos collègues, vous êtes, et vous vous êtes présenté comme ça, un cuisinier parisien. Alors, vous avez certes maintenant au César Palace à Las Vegas quand même un restaurant, vous nous direz pourquoi là-bas, mais sinon, pour vous, vous vous devez presque de rayonner depuis Paris, c'est ça votre idée?
Oui, moi je dis, où est-ce que je peux... C'est dans ma maison où je défends le mieux mon style. Donc, parce que j'y suis du matin au soir. Donc, vous avez parlé de Vegas. Déjà, Vegas, je ne me suis pas exporté. On m'a importé. Et puis alors, Vegas, je fais vite une parenthèse. je ne voulais pas forcément aller à Las Vegas, donc j'ai empilé les exigences. La première était que ce soit Jean-Michel Villemotte qui fasse mon restaurant là-bas. Parce que le concept César Palace, enfin le décor, c'était pas trop mon... Vous imaginez que c'était pas...
Jean-Michel Villemotte étant un architecte qui vous suit, hein,
qui, beaucoup. Oui, et puis qui est quand même l'un de nos plus grands architectes. Ça fait quoi, bien 30 ans qu'on se connaît. Je passe sur toutes les petites exigences. Mais la dernière a été à Las Vegas, c'est que l'on soit ouvert que 5 soirs par semaine. Vous vous rendez compte? Dans une ville où tout est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'ils avaient besoin d'un lieu à image forte. Je veux dire, là encore, il faut qu'on soit cohérent. Si vous voulez un lieu à image forte, il faut qu'il y ait une équipe type. Donc une équipe type, on est sûr de l'avoir sur 5 dîners par semaine. Alors, c'est vrai que l'amplitude horaire des dîners aux États-Unis est un peu plus grande, puisqu'on démarre les services du dîner là-bas à 5h30. Donc, enfin, 17h30 chez nous, 5h30 là-bas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement 20 ans, ça fera 20 ans en avril prochain, l'équipe de salle, c'est-à-dire les principaux de salle, les 6 ou 7 principaux, dont le directeur, était là le premier jour il y a 20 ans. Mais grâce encore une fois à cette organisation, entre guillemets, sociale, les collaborateurs ont un confort de travail, donc un confort de vie, et c'était pour moi la seule manière d'assurer ce que souhaitait la direction du César Palace, c'est-à-dire un lieu à image forte. J'aurais ouvert il y a 6 mois, je vous dirais, bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Au bout de 20 ans, je peux vous dire que c'est un succès total. C'est vrai que là-bas, le restaurant est plus rentable qu'ici à Paris, mais parce qu'il a moins de frais, parce qu'il n'a pas de loyer, il ne paye pas son électricité, enfin, je ne sais même pas s'il compte les amortissements, parce que je sais que le restaurant a coûté très cher.
Mais malgré tout, vous êtes là. Malgré tout, vous êtes à Paris,
voilà,
et c'est depuis Paris.
Et je suis là-bas 2 fois par an, c'est-à-dire au mois de mai, lorsqu'on a les ponts bien français. Et puis j'y vais aussi pour le 31 décembre maintenant. Bon, j'y vais là-bas 4 jours avant le 31 décembre, parce que nous sommes fermés ici à Paris. Voilà.
Est-ce que cette reconnaissance qui est la vôtre, ces prix que vous avez reçus, vous confère une forme de responsabilité particulière ou même une mission? Est-ce que vous concevez aussi votre rôle de grand chef, Guy Savoy, comme un rôle culturel? Vous avez d'ailleurs, je crois, eu le prix du rayonnement gastronomique français en 2018.
Ouais.
Est-ce que vous avez une mission à accomplir?
Cette mission, elle est évidente dans la mesure où je fais mon travail tous les jours, midi et soir, hein, pour les déjeuners, pour tous les dîners. C'est vrai que j'ai largement participé auprès de Jean-Robert Pitt à la mission qui s'est battue, je crois que le mot n'est pas trop fort, pour faire inscrire le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
En 2010. Et d'ailleurs, votre discours a été repris au bac 2023 dans la section HGGSP, histoire,
vous imaginez
et sciences politiques.
Ma surprise, moi qui me suis enfui du lycée en seconde, j'ai un de mes bons amis qui m'appelle, il me dit « mais tu as un sujet du bac ». Et je réalise que j'ai mon petit-fils qui passe le bac. J'ai dit, j'espère qu'il va m'appeler en sortant. Mais bien sûr, la première chose qu'il a fait, il m'appelle en sortant. C'est comme, j'entre dans le Larousse en 97. Ce que représente, vous êtes trop jeune, mais moi, le petit Larousse, quand j'étais à l'école, mais c'était la Bible. Et là, je me souviens, je remontais les Champs-Élysées et j'entends aux informations, bon, les nouvelles entrées, et j'entends mon nom. Je n'y crois pas du tout. Mais pas du tout. Impossible. J'arrive au restaurant, deux des collaborateurs, ils disent « Vous avez entendu, vous êtes rentré dans le Larousse ?» Je dis « Oui, mais je pense à un truc... voilà, c'est pas... voilà. » Bien sûr, on se renseigne, et puis moi, je voulais faire... Enfin, marquer le coup, faire une petite fête avec ces gens du Larousse. Quoi. Ah non, non, alors, c'était hermétique, non, non, pas du tout. Nous, c'est un comité qui décide d'entrer au Larousse, et vous n'avez aucun remerciement à faire, aucun événement célébrant. Non, voilà, c'est comme ça, et donc, depuis 97, bon, j'étais quand même pas très âgé. Alors, on m'a demandé, je me souviens, le Dauphiné Libéré, qui est quand même le journal de Bourgoin-Jallieu, quoi. Enfin, m'appelle et le lendemain, et ma seule réaction était de dire, je suis le seul qui a une seule date. La date de naissance, au-dessus de moi, c'était Saxo. Après, je sais pas, enfin, j'ai plus, mais à l'époque, je connaissais la page par cœur. Je trouvais ça, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai fait simplement mon métier. À l'époque, j'avais ouvert, c'est vrai, des bistrots, les bistrots de l'étoile, et en fait, c'était ça la définition, c'était grand chef français qui a ouvert également des bistrots. Enfin bon, c'était...
Vous me citiez à juste titre cette bataille pour mener le repas des Français, le repas gastronomique des Français à l'UNESCO. Mais ça n'a pas été la seule intervention. L'Institut de France vous a demandé d'intervenir aux rencontres patrimoine, sciences et technologies sur le futur de la gastronomie française comme l'un des plus grands patrimoines à l'échelle mondiale. L'Académie des sciences morales et politiques vous a reçu lors d'une de ces séances pour mieux comprendre le métier de cuisinier comme artisanat de rêve.
Artisanat, et je peux en citer beaucoup. Donc, et là, je me souviens de cet après-midi-là, parce que c'est grâce à Yvon Gattaz que je fais cette communication sur Cuisine artisanat du rêve, d'ailleurs qui a été édité, il y a un livre qui a été édité, suite à, comme toutes les communications à l'Institut. Et là, je peux vous dire que ce jour-là, j'avais une telle concentration, que j'ai perdu plus de 2 kilos dans mon après-midi, tellement j'avais un état de, enfin, pas de stress, mais de trac énorme. Mais j'avais en face de moi tout ce que la France a de plus brillant. Et heureusement, j'avais juste en face de moi Pierre Messmer, qui du regard m'encourageait, parce qu'il voyait que j'étais à deux doigts de perdre le fil. Parce que je me souviens très bien, j'avais eu 16 questions. À ce moment-là, les gens posent leurs questions, vous devez les mémoriser, et après répondre une fois que toutes les questions ont été posées. Mais je crois que j'ai jamais fait d'exercice aussi compliqué. Même le plus dur des services dans mon métier, le plus dur des déjeuners, le plus dur des dîners, n'a jamais atteint ce niveau de trac, de concentration et de...
Vous aviez l'impression de passer un examen ?
Je ne sais pas ce que c'est de passer un examen. Donc. Je pense que c'était...
Vous vous retrouvez sur les bancs de l'école ?
Non, je n'ai jamais eu ça sur les bancs de l'école, non. Non, c'était quelque chose... Non, mais vous aviez jamais été en moi. Et heureusement que j'avais ce regard complice de Pierre Messmer, qui, je lisais dans ses yeux, qu'il était en train de me dire « Ne lâche pas prise, tout se passe bien ». Parce que ça durait 2h30 quand même, donc c'est vrai. Mais oui, j'ai fait des choses, mais...
Mais quel sens ça a pour vous de faire ça ?
Plus la cuisine est valorisée. Rappelez-vous comme j'ai souffert quand on m'est pris pour un abruti parce que je voulais faire ce métier. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de montrer que la cuisine, c'est pas anodin, quoi. Que c'est quelque chose de fort et d'important. Je vais pas me défiler. Au contraire, je milite pour que les apprentis s'appellent étudiants. J'ai trop souffert de ça. Tout ça aussi a certainement participé, tous ces événements négatifs participent à votre solidité. Donc je n'ai pas... À part la santé, à part une équipe qui n'adhérerait pas à mon discours, à part un livre de réservation vide, ce qui serait une cata, ça, ce serait la grande catastrophe. Mais après, j'ai la prétention de penser que s'il est vide chez nous, ça voudrait dire que la situation est très, 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 très grave, je pense. Voilà.
Vous parlez de votre trac lors de ces quelques interventions qui furent les vôtres, Guy Savoy. Est-ce que vous avez eu le même trac quand le président Barack Obama est venu manger chez vous, chez Guy Savoy, invité par François Hollande, ou quand le président de l'Argentine avec son épouse ont été invités par Emmanuel Macron chez vous ?
Non, parce que j'ai tout de suite senti qu'il venait ici pour passer un bon moment, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qui est stressant ? Ce ne sont pas les présidents, ce sont les équipes autour qui veulent penser pour leur président.
Qui mettent la pression ?
Oui, qui mettent la pression. Donc, on avait dit, il n'aura pas le temps, donc pas de fromage. Bon, donc nous, on ne se met pas en place pour le fromage. Le président Obama voit qu'on installe ses... couvert pour le dessert. Et là, il y a cette phrase formidable. Je suis en France, je veux du fromage. Merveilleux. Alors, panique dans les équipes et tout. Bon, mais le problème, c'est qu'on lui a servi du fromage qui était un peu froid parce qu'on n'avait pas prévu de... Oui, puisqu'on m'avait tellement dit, pas de fromage, il est pressé et tout ça. Voilà, mais bon, on s'en est sorti. Non, parce que... Pourquoi il n'y a pas de stress ? Moi, je l'accueille sur mon terrain. Vous savez que les équipes se débrouillent toujours mieux sur leur terrain lorsqu'ils jouent chez eux que lorsqu'ils jouent à l'extérieur. Donc moi, dès que je joue sur mon terrain, bon, il ne peut pas se passer grand-chose de négatif. En tout cas, je fais on fait suffisamment en sorte que tout se passe bien. Non, si, alors je vais vous dire, peut-être que l'homme face à qui j'ai eu le plus de... où j'ai été complètement impressionné, c'est Clint Eastwood. Je venais de voir son film au cinéma, Grand Torino. Alors, je savais qu'il venait, puisqu'ils étaient une table de cinq. Donc, il arrive, c'était rue Troyon, et moi, je suis dans l'entrée, je le vois, et je vois des images du film. Il est devant moi. C'est Clint Eastwood, quoi. C'est avec tout ce qu'il représente. Et en plus, il arrive, je le sens préoccupé, et il dit à son chauffeur de se tenir prêt à 23 heures. Bon, il devait être 20h30. Il prévoit quand même un peu large, parce que j'imagine que l'emploi du temps qu'il avait... Bon, la première partie du dîner, visiblement, on parle affaires. Donc, il est très préoccupé. Et d'un coup, le long du déjeuner, une des personnes de la Warner, qui est Iris Knobloch, que je connaissais, et c'était au mois de novembre, et il y avait des truffes blanches. Et truffe blanche, lorsque je ne connais pas la convive, je me mets à côté et je râpe la truffe blanche en étant à côté. Et je demande à Iris, veux-tu que je mette la truffe blanche à l'italienne ? Elle me dit, qu'est-ce que c'est à l'italienne ? Je dis, écoute, je vais te montrer. Donc je passe derrière elle et je passe mes bras de chaque côté de ses épaules et je râpe comme ça. Donc c'est un geste très, qu'on peut faire qu'aux gens qu'on connaît très bien. Et là, ça a totalement changé le faciès de Clint Eastwood, qui s'est mis à rire. Et après, il a été délicieux tout au long du dîner. Il est parti à 1h du matin. Et j'avais fait la même chose à une amie à la table d'à côté, à l'italienne. Et en sortant et en passant devant la table, il dit à mon ami, à l'italienne. J'ai trouvé ça formidable, quoi. Voilà. Et Iris m'a dit, mais... peut-être qu'un jour, tu auras cette scène dans un des films. Alors, je ne sais pas, je n'ai toujours pas vu cette scène. Voilà.
À bon entendeur, salut.
Mais je peux vous dire que là, j'ai été très, 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 très impressionné. Ouais. Par ce qu'il représentait. C'est l'histoire du cinéma de ma génération, quoi. Clint Eastwood, c'était... Voilà.
Vous avez aussi eu le prix Liane Bettencourt pour l'intelligence de la main consacré à l'apprentissage. Vous a aussi demandé d'être son parrain. Mmh. Donc, vous intervenez dans des écoles auprès des jeunes. Vous leur racontez des choses comme ça ? Vous leur racontez quoi ?
Non, je leur raconte. Moi, j'essaye de balayer tous les mauvais clichés, surtout. C'est la première chose. Je balaye tous les mots. Travailler quand les autres ne travaillent pas. Enfin, on travaille plus que les autres, paraît-il. Enfin, bon, tout un tas de clichés qui n'ont plus raison d'être. Mais ce que je leur dis toujours en permanence, on est le seul métier où on est dans le concret, dans l'instantané. Et on est le seul métier que l'on peut faire dans tous les pays du monde sans faire une année d'équivalence dans le pays dans lequel on va intervenir. Si un médecin veut s'expatrier, il faut qu'il refasse un an d'études. Enfin, même sans diplôme, et je dirais même surtout sans diplôme, si vous avez un CV qui a de l'allure, vous pouvez... poser votre candidature à Sydney, à la Motte Beuvron, à Las Vegas, à Tokyo, partout sur la planète. Il n'y a pas d'autre métier dont le terrain de jeu, je dis bien terrain de jeu, est la planète entière.
C'est vrai que de grands chefs, d'ailleurs, qui sont passés par vos cuisines, que vous avez formées, Guy Savoy, je pense à Dominique Crenn, première femme chef 3 étoiles aux États-Unis oui. Aujourd'hui. Je pense aussi à Gordon Ramsay.
Gordon Ramsay, qui est
multi-étoilé, chez
voilà.
Vous.
Oui, et puis, bon, il n'y a qu'une chose avec Gordon, alors qu'on a très peu d'années d'écart, c'est qu'il m'appelle papa. Et ça le fait rire. Et moi, ça ne me fait pas vraiment rire, mais non. Pour vous dire qu'on entretient des relations tellement. Moi, je participe à tous les moments importants de la vie de Gordon, je suis invité. On est resté très proches, voilà, mais. Bon, les deux derniers qui se sont installés, c'est Alexis Voisenet, à Issy-les-Moulineaux, et Irvine Durand, pas très loin d'ici. Voilà.
Vous êtes la preuve vivante de votre discours, hein, que vous mettez en application. Qu'est-ce que ça vous fait, Guy Savoy, d'être devenu un mentor à votre tour ?
Bien sûr, c'est bien. Moi, je suis ravi de voir des anciens de la maison qui réussissent. Bien sûr, c'est formidable pour eux. Et puis, c'est valorisant pour moi, parce que la transmission dans nos métiers est primordiale. Hein.
Qu'est-ce qu'on transmet ?
Ouais, on transmet des gestes, déjà. Ces fameux gestes. puis certainement un état d'esprit, hein, ça c'est évident. Je suis un enfant de la transmission. Quand je regardais Jean et Pierre Troisgros travailler, j'avais envie de leur ressembler, quoi. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour les jeunes. Vous savez, ce qu'on peut absorber en esprit dans une maison, c'est ça aussi qui est important. Enfin, il y a des choses qui sont impalpables, mais que certains forcément s'imprègnent de, je sais pas, d'expression ou d'état d'esprit, tout simplement, quoi.
Une dernière question qui a trait à ce travail de rayonnement de la gastronomie française auquel vous contribuez activement, Guy Savoy, c'est les livres. Parce que vous écrivez des livres aussi. En particulier, oui. Je pense à cette collection de recettes d'écrivains,
oui,
que vous reprenez à votre compte depuis le 16e siècle jusqu'au 19e siècle, oui, à ce jour.
Alors là, ça aussi, c'est peut-être une frustration. Frustration parce que je n'aime pas lire. C'est vrai que la raison que je donne, je n'ai pas assez de temps. Ce qui est une excuse totalement idiote. Quand je vais à l'inauguration de la galerie des 5 continents au Louvre il y a 3 semaines, je n'ai pas le temps d'y aller. Mais je prends 1h30 pour y aller parce que je ne veux pas rater ça. Bien sûr que je prends le temps pour ça. Donc, mais alors, pourquoi là? Parce que je me suis dit, c'est Anne Martinetti qui fait la sélection des textes, hein, des textes des écrivains, dont on retire des choses de ces textes. Des choses qui ont lieu, qui sont autant de chroniques d'ailleurs, des siècles en question. Et je me suis aperçu que dans le 19e, Guy de Maupassant écrit le plus beau texte qui soit sur la gourmandise. À part que je ne suis pas d'accord avec lui sur la dernière phrase, où il dit que les gourmands sont aussi rares que les génies. Il n'y aurait pas beaucoup de monde dans les restaurants. Ou que Daudet, dans une chronique où il raconte le saccage d'un potager, enfin, un potager qui est complètement vandalisé. Et quand il voit ses laitues écrasées, il parle de régicide. Mais si mes profs qui ont voulu me dégoûter, ils avaient lu tout ça, ils auraient compris que les produits et la cuisine, mais c'est quelque chose qui est au plus haut niveau. Parler de régicide pour le saccage de laitue. Vous vous rendez compte à quel niveau ça met le travail du jardinier? Moi, ça me touche forcément, un père jardinier. Il y a une corrélation entre la littérature et la cuisine. Et moi, j'ai trouvé très, 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 très intéressant de travailler, bon, depuis Rabelais jusqu'à Alexandre Dumas. Bon, c'est qu'on ne vienne pas me dire que la cuisine, c'est pas important.
Ouais. Merci Guy Savoy, on se retrouve pour l'épisode, le dernier, ouais, l'épisode 5, La cuisine aux Beaux-Arts. À demain. C'était À Voix Nue avec Guy Savoy, réalisation Franck Lilin, prise de son Florent Lagani, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.